Deuxième partie, les hommes robots. Quand le monde se relève de la Seconde Guerre mondiale, le corps et l'esprit meurtris, c'est pour se jeter dans une nouvelle ère et donc une nouvelle musique, le rock. Mais cette révolution-là vient déjà de loin, elle était en germe dans les musiques noires américaines et n'attendait que son moment pour s'imposer. La révolution électronique aussi attend déjà son moment. On l'a vu, elle prend lentement forme depuis les rêves avant-gardistes des futuristes italiens des années 1910, puis fait un pas de géant avec chaque innovation technologique. Elle a inventé l'échantillonnage du son, elle a inventé les effets, elle a inventé le synthétiseur aussi, qui fournit enfin à tout un chacun, ou presque, des sons qui rompent avec le monde qui s'est consumé en 39-45. Avec tout cela, la musique électronique a montré qu'une chanson peut désormais surgir des doigts d'un homme seul, enfermé dans son studio, devenu magicien du son autant que pur compositeur. Notre histoire reprend là aujourd'hui, pour voir les musiques électroniques osciller et cavaler jusqu'à la révolution que sera la pop synthétique de Kraftwerk à la fin des années 70. Et cette partie du récit débute par un Big Bang. Électronique avait besoin d'une première grande composition œcuménique, et c'est Pierre Henry, un pionnier de la musique concrète, qui vient le lui offrir en 1967 sur la scène du Festival d'Avignon. Proche de Pierre Schaeffer dès la fin des années 40, animateur avec lui du groupe de recherche musicale, Pierre Henry a pris sa liberté dans les années 60. Il a monté son studio à Paris et il compose pour des ballets. En 66, Maurice Béjart a chorégraphié à Avignon la Symphonie pour un homme seul, première grande pièce de la musique concrète créée par Pierre Henry et Pierre Schaeffer en 49. L'année suivante, Béjart, qui est déjà une star, commande à Henry et à l'arrangeur Michel Colombier une partition qui mêlerait le classicisme à la pulsation rock du jerk, une danse à la mode. Furieusement pop, mais sans cesse entrechoqué de crissements déstabilisants, repris depuis dans une myriade de réclames et de films, le morceau psyché-rock en particulier marque son époque malgré son auteur, qui n'y voyait qu'une petite passade mélodique. mais cette boutade a bien propulsé l'un des premiers succès directement pop des musiques électroniques qui commence alors leur rang lente remontée vers la surface. Dans l'underground, les musiciens proto-électroniques se sont peu à peu sortis des spots publicitaires, des musiques de films ou des génériques de feuilletons, et les premiers albums apparaissent. L'un d'eux est co-signé par Delia Derbyshire. Souvenez-vous, la musicienne surdouée qui agite le BBC Radiophonic Workshop à Londres et a composé le thème marquant de la série Doctor Who. En 1969, Delia Derbyshire a rejoint le groupe White Noise qui publie son premier disque, An Electric Storm. Comme le premier disque du Velvet Underground, ce disque a été peu écouté à l'époque, mais une bonne partie de ceux qui l'ont entendu se sont lancés dans la musique. Le premier album de White Noise est une œuvre de pop brillante et visionnaire, qui expose toute la profondeur musicale qui peut sortir d'un synthétiseur, conjugué à des bandes magnétiques et des instruments plus classiques, pour donner à entendre mille détails fantomatiques derrière des mélodies poignantes. On est bien loin de l'exotisme des pionniers, de Popcorn et de Bach, repris par Wendy Carlos. De l'autre côté de l'Atlantique, à New York, les Silver Apples n'eurent pas plus de succès critique que le groupe de Delia Derbyshire, mais ils laissèrent eux aussi deux disques éminemment influents sur la longueur. Les Silver Apples composaient à l'époque des hymnes hippies typiques de cette fin des années 60, où l'on commence à se rassembler contre la guerre froide et ses conflits infinis. Sauf que les Silver Apples, qui tirent leur nom de l'une des premières compositions créées par ordinateur, signée Morton Subotnick, composent leur musique avec un synthétiseur maison. Un engin de savant fou, construit avec des oscillateurs et des pédales qui font tournoyer sans fin les chansons du duo, comme des danseurs ivres de musique et de bien d'autres substances, perdues dans les ondes radio d'un transistor. It's on. Les instruments électroniques attirent bien vite les gros poissons de la pop musique, ce fabuleux aspirateur à nouvelles idées. Mais pour cela, il faut quelques passeurs de génie, et David Bowie est leur roi. Quand il entre en studio pour enregistrer son second album en juin 69, le chanteur anglais n'a qu'une démo peu aboutie de la chanson qui va lancer sa carrière, Space Oddity. La ballade à la guitare est jolie, mais elle n'évoque que peu la valeureuse conquête de l'espace que raconte la chanson, composée en pleine folie spatiale, alors que la mission Apollo 11 s'apprête à partir pour poser le pied sur la Lune. Bowie a bien entendu aussi en tête le film choc de Stanley Kubrick, sorti un an auparavant, 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout ça fait un peu opportuniste. Et sa petite chanson est retoquée par George Martin, le producteur des Beatles, qui refuse de produire l'album du jeune homme. Et pourtant, Space Oddity, une fois orchestré, s'avère grandiose. Surtout, la chanson inaugure la quête sans fin de David Bowie pour les nouveaux instruments et les nouveaux sons.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition,
1.
And may God's love
lift
be
off.
With you.
Lift off.
Dans Space Oddity, David Bowie utilise un mélotron, un ancêtre du synthétiseur qui lit ses sons sur des bandes magnétiques. Mais il emprunte surtout à son ami Mark Bolan, star du rock échevelé du moment, un stylophone. Ce tout petit instrument apparu un peu plus tôt et vendu comme un jouet fonctionne d'une façon très basique. On applique un stylet sur les touches en métal de son clavier, ce qui a pour effet de générer des notes nasillardes et grésillantes. C'est lui que l'on entend au début de la chanson, qui imite les crépitements du micro qui permet à Grand Control et Major Tom de communiquer jusqu'au décollage symbolique du refrain. D'autres figures du début des années 70 s'amusent avec les instruments électroniques qui se répandent alors à grande vitesse dans les studios. Pink Floyd notamment réoriente à l'époque sensiblement son rock psychédélique en découvrant une nouvelle façon d'installer des ambiances de claviers synthétiques nébuleuses dans Uma Guma ou de réaliser des collages sonores absurdes et dadaïstes dans Atom Heart Mother. Dans son album de 73, The Dark Side of the Moon, vendu à près de 50 millions d'exemplaires depuis, c'est carrément un festival. Des samples de caisses enregistreuses et de billets dans Money et du synthé un peu partout, en accompagnement ou en roue libre dans le morceau On The Run, enregistré avec un synthé A de la marque EMS. C'est comme un moteur lancé à toute blinde sur l'autoroute de l'avenir, le moment furtif où Pink Floyd rejoint le plus moderne de son temps, où le supergroupe anglais fait jeu égal avec les expérimentateurs les plus affûtés, avant de retomber dans une pop nettement plus grandiloquente. Minuscule entre le très grand public et l'underground. Et à l'époque, Pink Floyd se fait le colporteur des tentatives avant-gardistes qui agitaient la scène allemande au début des années 70. Un temps qualifié de kosmische Musik, littéralement musique cosmique pour sa propension à planer en regardant les étoiles, cette génération devient peu à peu krautrock. Quelque chose comme le rock choucroute en français. Le terme est très péjoratif lorsqu'il est inventé par la presse britannique, mais les Allemands se le réapproprieront avec dérision. Ils se moquent bien de ce qu'on pense de leur musique. Eux anticipent le punk en s'opposant aux dérives du rock progressif qui domine alors le paysage musical avec sa passion pour les démonstrations techniques qui ont fini par transformer les albums en catalogue de matériel pour musiciens. Le krautrock est une réaction explosive contre ce déraillement, une musique libre qui revendique de faire le plus avec le moins. C'est cette règle d'assaise qu'applique notamment Tangerine Dream, l'électron libre Popol Vuh ou le collectif Amon Dul 2, qui brise les structures et cherche une nouvelle transe répétitive inspirée par le free jazz, la musique sérielle de Terry Riley et Steve Reich et largement nourrie par la consommation de drogue. À ce jeu, c'est Cannes, fondé à Cologne autour du duo Irmin Schmidt et Holger Sukay, qui rassemble le plus efficacement ses revendications dès l'ouverture de son premier album Monster Movie, émergé de la fumée des manifestations de 68. Le morceau s'appelle « Father Cannot Yell ». Mother screams, I am mother. Woman screams, I am fertile. And the father can't yell. Brain direction down and slowly mind creates a bit and forever. And you keep remembering. Mother screaming, I am mother. Woman screaming, I am fertile. And the father, he hasn't been born yet. He hasn't been born yet. All has been forgotten and the plastic turns to rotten rays and smells. While pointing to the deathly beautiful, mother there in pain creating, woman who just lies there waiting. And her father, he hasn't been born yet. Avec ce disque, mais surtout avec les suivants Tagomago et Future Days, Cannes touche une corde sensible et entraîne toute une génération de musiciens allemands dans un nouveau minimalisme nerveux. Peu à peu, les batteries deviennent métronomiques, tandis que les guitares ne disparaissent pas mais deviennent des instruments de percussion. Plus question de les triturer les cheveux au vent, elles sont bien souvent utilisées pour créer une nouvelle pulsation systématique dans laquelle les musiciens se perdent pendant de longues plages instrumentales qui donnent envie de danser en conjuguant la syncope du rock et les quatre temps rigides du disco. Déjà, l'esprit des musiques à venir, le disco, mais aussi la techno, pointe dans ces longs rubans de musique sans fin qui font naître un nouveau sentiment d'éternité salvateur au milieu de la tension Est-Ouest qui pèse sur les deux Allemagnes. Désormais, les auditeurs n'écoutent plus un message, mais sont invités à laisser leurs pensées flotter avec la musique. La scène ouest-allemande de ce début des années 70 est un petit cercle éparpillé, mais un personnage fait la jonction entre eux, Conny Planck. Planck est un producteur de génie, qui a bien compris que le temps des machines était venu. Pour lui, ces machines nouvelles, ces synthétiseurs, autant que les nouveaux rythmes mécaniques, sont surtout un moyen de tirer la musique populaire allemande de sa léthargie d'après-guerre. Noyée de musique américaine à l'ouest, bridée à l'est, la pop allemande se réduit alors au schlager, une soupe romantique chantée par des éphèbes aux dents trop blanches. Il faut donc réagir, inventer une nouvelle musique allemande. C'est ce que dit si bien le musicien et écrivain britannique Julian Cope dans son livre Krautrock Sampler. Si j'avais été un jeune Allemand dans les années 60, j'aurais fait du krautrock ou je serais mort. Je n'aurais pas pu vivre une seconde en sachant que la génération de mes parents avait été mêlée à un crime qui dépassait les pires cataclysmes. Je me serais jeté dans un trip rock en direction de Mars, ce qui est précisément la voie que les meilleurs rockers allemands ont suivie. En 1970, Conny Planck prend par la main quatre jeunes hommes de Düsseldorf qui jouent encore sous le nom d'Organisation, une kosmische musique planante de facture classique, mais ils ont déjà envie d'autre chose. Renommés Kraftwerk, ils sortent alors leur premier album, produit par Conny Planck, où Ralf Hütter et Florian Schneider, les deux têtes pensantes du groupe, explorent une musique distendue et rythmique qui tend vers l'infini, notamment dans leur titre fondateur, Ruckzuck. Ces 8 minutes de battements glacés et sans but, portés par une flûte qui rappelle encore le rock progressif à la flûte façon Jet Rotel, sont la préhistoire de Kraftwerk et le début d'un nouveau chapitre pour la pop. Même après la sortie de son premier album, Kraftwerk n'est malgré tout encore qu'un groupe de krautrock de plus, pas plus révolutionnaire que Can ou Tangerine Dream. Surtout, des dissensions fondamentales agitent le groupe. Florian Schneider et Ralf Hütter, marqués par l'art contemporain et la performance, fantasment une musique entièrement confiée à des machines. Tandis que le batteur Klaus Dinger et le guitariste Michael Rother, deux pièces essentielles dans le battement de Rückzug, veulent continuer à puiser leur énergie dans les instruments du rock pour mieux le dépasser. C'est le moment d'un schisme qui laissera des traces. Rother et Dinger partent fonder Neue et publier une série de disques qui inventent le post-punk, propulsé par un rythme qui semble comme motorisé, lancé sur une autoroute allemande au fil d'un groove étouffé. Le tout est bien sûr produit par Conny Plank. Ce rythme qui se déploie et qui ronronne comme une Mercedes bien huilée, qu'on a fini par appeler motorique pour tenter de restituer son aspect mécanique, marque fortement les membres restants de Kraftwerk à l'époque. Privé de batteur, Schneider et Hütter recrutent alors un remarquable percussionniste, Karl Bartos, et commencent à fabriquer une batterie électronique. Guidé par Conny Planck, il s'équipe aussi des dernières machines du moment, un Harp Odyssey et un séquenceur Synthi-A de la marque EMS, le même qu'utilisait Pink Floyd pour son morceau On The Run. Mais contrairement à Neu, Kraftwerk, on l'a dit, rêve d'une musique intégralement électronique. Ils deviendraient alors les simples opérateurs de machines chargés de jouer des mélodies infinies pour les humains dans un futur utopique. Ce rêve est autant un hommage cynique à la réindustrialisation triomphante de l'Allemagne de l'Ouest après-guerre qu'un pied de nez moqueur à l'avant-garde trop distante, représentée alors outre-Rhin par la musique de Stockhausen. Les Kraftwerk, eux, revendiquent une nouvelle avant-garde populaire européenne. Mais dans le même temps, ils s'inspirent crânement des Beach Boys californiens dans leur premier succès sorti en 1974, Autobahn. 22 minutes et 47 secondes, soit une face entière de vinyle, où Kraftwerk glisse à son tour sur une autoroute avec une insouciance nouvelle pour la jeunesse allemande. Autobahn est un morceau central dans notre histoire et un point de non-retour pour les musiques électroniques qui affirment que la répétition peut emporter les auditeurs dans un autre espace-temps. Thank you. Autobahn est un choc en 1974, alors que le monde entier danse sur le Waterloo d'Abbas et que Claude François chante Le téléphone pleure en France. Mais ce n'est qu'un début pour Kraftwerk qui continue rapidement d'avancer vers sa poésie mécanique totale avec son album Radioactivity en 1975. Ce disque marque tant David Bowie qu'il invite les Allemands à jouer en première partie de sa tournée Station to Station l'année suivante. Kraftwerk refuse, car Kraftwerk ne joue avant personne, mais Bowie utilisera quand même leur musique pour accueillir les spectateurs pendant ses concerts. Le chanteur anglais vit à Berlin-Ouest à l'époque, fuyant la pression des médias et le succès qui l'empêche de vivre normalement en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. En Allemagne, il a découvert la très agitée scène krautrock, Kahn, Klaus Schulze, Popol Vuh. Et surtout, son ami Brian Eno lui a présenté la bande de Cluster, Dieter Moebius et Hans-Joachim Rodelius. Changeant sans cesse de nom et d'orientation musicale, Cluster vient alors de sortir l'album Zuckerzeit, qui rompt avec les jams cosmiques qui peuplaient ses enregistrements précédents. Dans Zuckerzeit, et en particulier dans le morceau d'ouverture Hollywood, Moebius et Rodelius branchent les synthés, lancent de timides rythmiques et semblent même à deux doigts de danser, avant de finalement préférer regarder leur composition chaloupée toute seule dans la nuit. Pas dans Cluster, Moebius et Rodelius arpentent une musique plus nébuleuse au sein d'Harmonia, où ils sont rejoints par Michael Rother, de Neu. Les trois vivent à la campagne, au sud de Hanovre, dans un corps de ferme ouvert au vent qui inspire directement les improvisations qui donnent peu à peu forme à leurs morceaux, qui voguent entre la pulsation motorique et quelque chose de plus posé. Harmonia a rencontré Brian Eno en 1974 également, qu'il est considéré alors comme l'un des groupes les plus importants du monde, suffisamment important pour faire le déplacement rien que pour les voir sur scène à Hambourg. Puis ils ont enregistré ensemble quelques morceaux qui préfigurent la musique électronique dite ambiante, ce papier peint sonore de luxe que Brian Eno révélera au monde en 1978 avec son disque Music for Airports. Thank you. pas étonnant, lorsqu'on entend son travail avec Harmonia, de retrouver tant d'idées électroniques dans les albums qu'Eno compose et enregistre avec Bowie à Berlin entre 77 et 79. Low, Heroes et Lodger. Trois disques inspirés par Harmonia, le krautrock et Kraftwerk, qui entrent dans des foyers nourris quasi exclusivement par la culture du rock depuis la fin des années 50. À la place, Bowie et Eno affirment la toute-puissance du studio et du producteur, le règne des effets électroniques qui peuvent transformer une bonne idée en chef-d'œuvre. Toujours prêt à choquer pour faire passer son message, Bowie déclare même à l'époque au magazine australien RAM « Le rock est mort, ce n'est plus qu'une vieille dame sans dents et c'est vraiment embarrassant ». Entre le premier album de Neu, l'Autobahn de Kraftwerk et la trilogie berlinoise de Bowie, le monde musical est en train de changer. Or, les classements des meilleures ventes n'ont pas été vraiment chamboulés. Ils restent dominés par Barbara Streisand, les Eagles ou Renault en France. Mais les synthétiseurs et les boîtes à rythme deviennent accessibles à tous ou presque. Et surtout, la couche la plus populaire de la musique commence à changer de tempo. Elle quitte les structures couplet-refrain, écoute le son autant que la mélodie ou les paroles. Elle tend aussi vers un minimalisme ultra efficace, aidé en cela par les limites techniques des premiers synthés et des premières boîtes à rythme. En 1977 et 78, Kraftwerk publie deux albums qui vont pousser ses idées encore un peu plus loin, Trans-Europe Express et The Man Machine. Les Allemands y achèvent leur mutation en homme-robot et livrent une série d'hymnes hypnotiques au rythme parfait et aux voix robotiques qui annoncent déjà la techno et la pop synthétique dont nous reparlerons à la fin de la semaine. Mais avant cela, nous nous intéresserons à une autre branche des musiques électroniques, la culture des sound systems qui s'est inventée avec le dub et le hip-hop en étendard et Kraftwerk comme parrain blanc d'une révolution noire. Express. Vous venez d'entendre Continent Musique, une histoire des musiques électroniques. Deuxième partie, Les Hommes Robots, une émission de Sofian Fanen, réalisation Benjamin Hu, prise de son Alex Dang. Merci à Gérard Chan à la discothèque de Radio France, à Arnaud Plançon et Véronique de Saint-Pastou à l'INA. Toutes les références des œuvres diffusées aujourd'hui sont disponibles sur le site de France Culture, ainsi que quelques conseils de lecture et documents vidéo. Merci à Meitran pour la mise en ligne de tout cela. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne pendant un an et la podcaster pendant 1000 jours.